Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Au moins 1800 personnes sont mortes chez elles à cause du Covid-19 entre les mois de mars et de mai ce printemps. Le chiffre est une première, il vient d'une longue étude de l'INSERM, car vous l'entendrez dans ce journal, il a fallu du temps pour faire remonter les données. À suivre aussi le point sur la production de masques textiles en France en cette rentrée 2020. Les entreprises s'organisent et les stocks grandissent. Donald Trump attaque les démocrates américains en ouverture de la convention républicaine. Il doit y être investi pour la présidentielle de novembre. Nous revivrons la soirée d'hier dans quelques minutes. Et puis nous irons en Lituanie où l'opposante belarusse Svetlana Tikhanovskaya a rencontré des émissaires américains et européens hier. Les occidentaux prennent position face à la crise en Biélorussie. On connaît donc maintenant à peu près le nombre de décès du Covid-19 survenus à domicile. La Direction générale de la Santé ne communiquait jusqu'à présent que sur les décès dans les établissements hospitaliers et dans les EHPAD. Les décès à domicile étant plus difficiles à comptabiliser car les données plus lentes à remonter. Il a donc fallu attendre quelques mois pour avoir ce chiffre, Daniel Messager.
1871, c'est le nombre de décès à domicile entre début mars et fin mai, un chiffre qui vient donc s'ajouter aux 30 528 personnes mortes, soit dans les établissements hospitaliers, soit dans les EHPAD. C'est le Centre d'épidémiologie sur les causes de décès de l'INSERM qui les a communiquées, estimant que les données étaient fiables, puisqu'aujourd'hui, un peu plus de 90% des certificats de décès avec mention Covid-19 sont connus. Mais pourquoi a-t-il fallu tant de temps pour connaître le nombre de personnes décédées chez elles? C'est parce que seulement un quart des notifications sont réalisées de façon électronique, alors que le système avait été mis en place après la canicule de 2003, justement pour faciliter ces connaissances. Les autres certificats de décès sont établis sur papier, ce qui prend beaucoup de temps pour remonter aux différents organismes, dont Santé publique France. Il manque encore près de 10% des informations. Celles en provenance de Normandie, Guyane ou du Nord ne sont pas complètes. Le nombre de morts est donc sans doute encore un peu en deçà de la réalité.
Au total, ce sont donc plus de 32 000 personnes qui sont décédées en France à cause du Covid-19. Ce matin, Emmanuel Macron, le président, réunit son conseil de défense à l'Élysée. Un organe restreint d'arbitrage sur la gestion des mesures contre l'épidémie. Seront notamment présents le Premier ministre Jean Castex, le ministre de la Santé Olivier Véran ou de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Car il y a de la pédagogie à faire quand tout le monde doit reprendre, masqué, le chemin du collège, du lycée ou du bureau. Nous vous proposons ce matin un point sur la filière des masques justement en France. Où en est la production pour que nous soyons tous masqués? Réponse de Guillaume Gibault, patron de l'entreprise textile Le Slip Français. Il est chargé par le gouvernement de trouver des débouchés pour la production française de masques.
Alors pour ce qui concerne les masques textiles grand public, on est capable de fabriquer entre 20 et 25 millions de masques par semaine. Donc clairement, il y a largement de quoi fabriquer assez de masques textiles pour subvenir aux besoins dans le cas d'une deuxième vague, ou en tout cas dans le cas des conditions plus strictes qu'on est en train de vivre et qu'on voit changer au jour le jour. Pour vous donner un ordre d'idée, au plus fort de la crise, au mois de fin avril, début mai, on fabriquait 5 millions de masques par jour. Au sein du groupement Savoir-Faire Ensemble, qui comptait jusqu'à 1400 entreprises, aujourd'hui, il reste à peu près 500 entreprises qui restent mobilisées en France pour la fabrication de masques textiles. Et si tout le monde se met à plein régime de fabrication, ça donne ces 20-25 millions par semaine. Donc en tout cas, pour ce qui est des masques textiles, qui sont pas les masques qui servent le personnel soignant, mais qui sont les masques pour le grand public, comme le nom l'indique, là, il y aura pas de rupture de stock sur ces masques-là. On est plutôt aujourd'hui encore dans la situation inverse, encore pas mal de stock auprès chez les fabricants et chez la distribution au sens large.
Des propos recueillis par Stanislas Vazak. Pour soutenir les petites et moyennes entreprises, maintenant, le ministre de l'économie Bruno Le Maire précise ses intentions dans les colonnes des Échos ce matin. Les PME vont bénéficier d'un nouveau système d'emprunt à très long terme. Voilà ce que dit Bruno Le Maire à une semaine de la présentation du plan de relance. La situation épidémique en France encore, qui fait peur à l'Allemagne. Berlin déconseille les voyages à destination de la région parisienne et de la Côte d'Azur. L'Allemagne évoque la recrudescence des cas de nouveaux coronavirus dans ces régions françaises. Après les démocrates la semaine dernière, c'est au tour des républicains américains d'organiser cette semaine leur convention nationale pour investir leur candidat, Donald Trump. Il doit accepter sa nomination jeudi soir, première soirée de convention. Hier, soirée durant laquelle le camp républicain a défendu le bilan de Trump à la Maison-Blanche. Retour sur cette soirée avec notre correspondant Grégory Phillips.
Pendant 2h30, tout ou presque tourne autour de Donald Trump, sa personnalité ou ses résultats, son bilan économique, les milliers de vies qu'il a sauvées pendant l'épidémie de coronavirus, selon une infirmière de Virginie-Occidentale, appelée à témoigner dans cet auditorium de Washington. Même le fils du président a été convié à la tribune.
Good evening, America. I'm Donald Trump Jr.
Donald Trump Jr. accuse Joe Biden d'être la marionnette de la gauche radicale.
From St. Louis, Missouri.
Et puis voici, enregistré chez eux, Patricia et Mark McCloskey, ce couple de Saint-Louis, Missouri, qu'on avait vu fin juin, arme à la main, défendre sa maison et menacer des manifestants Black Lives Matter. Si Biden est élu, assure-t-il, alors ce sera le chaos et la fin de la tranquillité pour nos banlieues. Donald Trump, lui, est intervenu un peu plus tôt dans la journée, depuis Charlotte, en Caroline du Nord, lieu officiel de la convention, pour accuser les démocrates de vouloir voler l'élection. Cette histoire de vote par correspondance et ces 80 millions de bulletins envoyés à des électeurs, ça n'est pas juste, ça n'est pas bien. Faites très attention, surveillez bien ce qui va se passer, parce que nous devons gagner. C'est l'élection la plus importante de toute l'histoire de notre pays. Tim Scott, le seul sénateur noir du Parti républicain, conclut cette première soirée avec un discours plus consensuel et à même de séduire au-delà de la base des militants trumpistes. Ce soir, on attend les prises de parole du secrétaire d'État Mike Pompeo et de l'épouse du président Melania Trump.
Donald Trump au centre du jeu républicain, on y reviendra après ce journal, dès le journal des idées d'ailleurs avec Jacques Munier. Lui a été réélu il y a 2 semaines au pouvoir depuis 26 ans maintenant. Il est accusé d'opacité, d'avoir organisé des élections biaisées et de réprimer depuis les manifestants. Alexandre Loukachenko en Biélorussie poursuit les arrestations d'opposants. Hier, les Occidentaux ont fini par monter au créneau. Des représentants américains et européens ont rencontré l'opposante Svetlana Tikhanovskaya. Elle s'est réfugiée en Lituanie. Sur place se trouve Eric Biegala.
La diplomatie américaine avait dépêché à Vilnius son numéro 2, le sous-secrétaire d'État Stephen Biegun, qui s'est entretenu avec Svetlana Tikhanovskaya, la championne de l'opposition au régime de Loukachenko. En l'occurrence, le State Department acquiesce aux demandes de cette opposition, pas d'ingérence dans la politique biélorusse, tout en esquissant un soutien.
Nous considérons que le mieux que l'on puisse faire, c'est de soutenir le peuple de Biélorussie. Et au bout du compte, ce sera à lui de décider de son avenir. Et nous respecterons son choix.
En clair, les États-Unis soutiennent l'organisation de nouvelles élections en Biélorussie, la revendication principale de l'opposition à Loukachenko. Côté Union européenne, c'est le député européen français Stéphane Séjourné qui avait fait le déplacement à Vilnius hier et lui promet de se faire le relais de l'autre demande de Svetlana Tikhanovskaya qu'il a également rencontrée.
Elle demande qu'on mette de la pression politique sur le pouvoir en place par rapport aux prisonniers politiques. Il y a 2 membres de la coordination qui se sont fait encore arrêter et c'est là-dessus qu'on peut éventuellement nous avoir un rôle politique.
Après avoir entendu l'opposition, les Occidentaux devraient maintenant aller voir l'autre parti. L'Américain Stephen Biegun s'envole ce matin pour Moscou, où l'on trouve les principaux parrains du régime de Loukachenko.
C'était notre envoyé spécial Eric Biegala, accompagné de Gilles Galinaro. L'Allemagne conclut à l'empoisonnement de l'opposant russe Alexeï Navalny, accueilli sur son sol. Berlin a demandé hier à la Russie d'en juger les auteurs. Et sachez que dans la foulée, l'Union européenne appelait Moscou à une enquête transparente et indépendante. En Tunisie, la révolution est passée, voilà 10 ans maintenant, mais le pays traverse toujours une récession sans précédent, couplée à une crise politique. Cette nuit, le nouveau Premier ministre, Hichem Mechichi, a présenté son gouvernement, un gouvernement de dernière chance, Maureen Mercier.
Hichem Mechichi a déjà un mérite, celui de tenir parole. Il avait promis un gouvernement composé de technocrates, refusant de se soumettre aux partis politiques qui avaient pour obsession d'y placer leurs membres. En choisissant comme Premier ministre Hichem Mechichi, 46 ans, indépendant, le président Kais Saied avait lancé un signal très clair aux partis. Fini les querelles pour le pouvoir qui depuis des mois paralyse l'Assemblée. Le pays ne peut plus le supporter. D'autant que la récession économique est sans précédent, aggravé par le Covid. Le taux de chômage officiel frise désormais les 19%. Problème, c'est justement ce Parlement qui doit maintenant accorder sa confiance au nouveau gouvernement. 2 options. Soit le Parlement refuse, dans ce cas l'Assemblée sera dissoute, le pays ira vers de nouvelles élections législatives. Soit le gouvernement passe la rampe et Hichem Mechichi n'aura pas la tâche facile. Depuis les élections législatives d'octobre dernier, le pays a déjà connu 2 gouvernements. Un jeune écœuré avait prédit, le Parlement finira par valider ce gouvernement uniquement parce que les députés, tous des incapables, voudront conserver leur siège. Verdict d'ici quelques jours.
Et l'on suivra cela avec vous, Maureen Mercier, correspondante de France Culture à Tunis. De la pluie est attendue sur le quart nord-ouest de la France métropolitaine ce mardi. Face au reste du pays, en revanche, bien ensoleillé ce matin, comptez 16 à 24 degrés du nord au sud.